Je voulais parler de la confiance en Dieu, en fait, et à travers quelques points. D'accord. Et on va commencer par lire. En fait, on va lire pas mal de passages. Mais j'aurais voulu qu'on commence avec deux rois. Enfin, pas dans le livre, enfin, si c'est aussi dans le livre de deux rois, mais avec deux rois, Asa et Ézéchias. Et donc, si vous voulez bien, on va commencer avec Ézéchias en lisant deux rois au chapitre 18. J'ai ressorti ma Bible papier parce que quand je lis un long texte, j'aime pas les trucs électroniques. Je me chibélise. Alors, le passage est un peu long, donc je sauterai de temps en temps, mais on va commencer chapitre 18 au verset 28. Donc le contexte, hein, c'est le Rabshaké, c'est-à-dire le chef de l'armée d'Assyrie, qui essaye d'impressionner les Israélites. Il est en train de les assiéger et donc il se tient là et crie à haute voix en langue judaïque pour que tout le monde le comprenne bien. Et il parle en disant « Écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi dit le roi, qu'Ézéchias ne vous trompe point, car il ne pourra pas vous délivrer de la main du roi. Et qu'Ézéchias ne vous fasse pas mettre votre confiance en l'Éternel, disant « L'Éternel nous délivrera certainement, et cette ville ne sera point livrée en la main du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi dit le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi et sortez vers moi. Et vous mangerez chacun de sa vigne et chacun de son figuier, et vous boirez chacun des eaux de son puits, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme votre pays, un pays de blé et de moût, un pays de pain et de vignes, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. Et n'écoutez pas Ézéchias, car il vous séduit, disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils bien délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sépharvaïm, d'Éna et d'Iva? Et ont-ils délivré Samarie de ma main? Quels sont d'entre tous les dieux des pays ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Et le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car c'était là le commandement du roi, disant « Vous ne lui répondrez pas ». Et donc, on va passer un petit peu plus loin, je pense. Donc, c'est rapporté à Ézéchias, ce qui a été dit. Et donc, Ézéchias va trouver Ésaïe, qui était l'homme de Dieu en ce temps-là. Et au verset 6 du chapitre 19, Ésaïe répond « Vous direz ainsi à votre Seigneur, c'est-à-dire à Ézéchias, « Ainsi dit l'Éternel, ne crains pas à cause des paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Voici, je vais mettre en lui un esprit, et il entendra une nouvelle, et retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Donc le Rabshaké retourne, il a cette nouvelle, il retourne dans son pays, mais avant de partir, il prend soin de dire à Ézéchias, par ses messagers, « Vous parlerez ainsi, ça c'est au verset 10, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, disant « Que ton Dieu, en qui tu te confies, ne te trompe point, disant « Jérusalem ne sera pas livrée en la main du roi d'Assyrie. Voici, tu as entendu ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les détruisant entièrement. Et toi, tu serais délivré? Est-ce que les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont délivrés? Gozan et Caran et Retsef et les fils d'Éden qui étaient en Télassar, où est le roi de Hamath et le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sépharvaïm, d'Éna et d'Iva ?» Verset 14. « Et Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut et monta dans la maison de l'Éternel. Et Ézéchias la déploya devant l'Éternel. » Et donc ensuite il prit l'Éternel en invoquant son secours. Verset 19. « Éternel notre Dieu, sauve-nous, je te prie, de sa main. » Afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi, Éternel, tu es Dieu, toi seul. Et verset 20, Ésaïe envoya vers Ézéchias, disant, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant à la prière que tu m'as faite au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie, je l'ai entendue. Et si on lit toute la suite du chapitre 19, dans la réponse, il explique que le roi d'Assyrie, il arriva cette nuit-là, c'est au verset 35, qu'un ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Et juste avant, dans le passage, il est dit que, ok, tous les dieux de tous les peuples qui ont été cités n'ont pas délivré. C'est Ézéchias qui dit ça, en fait, en priant l'Éternel. C'est vrai que tous les dieux des autres peuples n'ont pas délivré leur peuple de la main des Assyriens, pour une bonne raison, parce que c'est pas des dieux. Alors que toi, tu es Dieu, et toi, tu peux nous délivrer. Donc ça, c'est Ézéchias, d'un côté. Et puis d'un autre côté, on va voir Asa. Puis je les commenterai après, pour le moment, on va juste le lire. Et donc Asa, c'est en deux chroniques, d'abord au chapitre 14, il y a deux moments dans sa vie en fait, chapitre 14 et ensuite chapitre 16. Donc Asa, chapitre 14. Donc cette fois-ci, c'est des Éthiopiens qui viennent attaquer le peuple d'Israël. Et chapitre 14, verset 9 de 2 Chroniques. Zérak l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars. Et il vint jusqu'à Maresha. Et Asa sortit au devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Maresha. Et Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, il n'y a pas de différence pour toi pour aider entre beaucoup de force et point de force. Aide-nous, Éternel notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi, et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Tu es l'Éternel notre Dieu, que l'homme n'ait point de force contre toi. Et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens s'enfuirent. Il s'ensuit après au chapitre 15 une période de prospérité pour Israël, où Asa détruit les autels aux idoles, etc. Et puis chapitre 16, au premier verset, la 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda. Et il bâtit Rama, afin de ne permettre à personne de sortir de chez Asa, roi de Juda, ou d'entrer chez lui. Et Asa tira l'argent et l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et envoya vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas, disant « Il y a alliance entre moi et toi, et entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. » Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël. » Et donc, c'est ce qui se passe. Et donc, le roi de Syrie vient à l'aide du roi de Juda. Mais verset 7, « En ce temps-là, Hanani, le voyant, vint vers Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, à cause de cela, l'armée du roi de Syrie est échappée de ta main. Les Éthiopiens et les Libyens n'étaient-ils pas une armée nombreuse, avec des chars et des cavaliers en très grand nombre? Et quand tu t'appuyais sur l'Éternel, il les livra entre tes mains. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. En cela, tu as agi follement, car désormais tu auras des guerres. » Et Asa s'irrita contre le voyant et le mit en prison, car il était indigné contre lui à cause de cela. Et puis au verset 12. Et la 39e année de son règne, Asa fut malade des pieds, jusqu'à ce que son mal fût extrêmement grand. Et dans sa maladie aussi, il ne rechercha pas l'Éternel, mais les médecins. Et il mourut la 41e année de son règne. Donc j'ai choisi de lire ces deux textes, même s'ils sont un petit peu longs, pour juste qu'on réfléchisse à... quelle attitude on a quand on apprend une mauvaise nouvelle ou quand on se retrouve face à une circonstance difficile. Là, dans les deux cas qu'on a lus, c'était des ennemis qui venaient envahir le pays, mais ça peut être plein d'autres choses dans nos vies à nous. Et je réfléchissais qu'en fait, en gros, il y a à peu près trois façons, il me semble, de réagir devant ce genre de choses. Trois façons de réagir. La première, c'est d'essayer tout de suite de chercher une solution, en fait, par tous les moyens possibles. Et puis de persévérer là-dedans, c'est-à-dire de continuer à chercher une première solution, ça marche pas, une deuxième, ça marche pas, une troisième, sans jamais penser à regarder en haut, en fait, en étant tout le temps à chercher des solutions sur un plan humain. La deuxième, c'est de commencer comme ça, et puis tout d'un coup de se rappeler que quand même on a... Alors soit s'en rappeler tout d'un coup qu'on a un Dieu qui s'intéresse à ce qui nous arrive et à qui on peut parler, ou plus souvent, juste parce qu'on a essayé les 36 solutions auxquelles on a pu penser, la 36e vient d'échouer, là on n'a plus d'idées, et donc là on crie à Dieu. Et honnêtement, on fait ça souvent. Moi, je fais ça. Je suis une très grande spécialiste de ça, de chercher d'abord des solutions avant de demander à Dieu. Et puis la troisième, c'est ce qu'a fait Ézéchias. C'est que quand il a reçu la lettre du roi du Rabshaké, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé dans le temple et il l'a ouverte devant Dieu et il a prié d'abord. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait, parce qu'après, il était le roi, il avait bien sûr des choses à organiser pour se battre contre le Rabshaké, mais en premier, il en a parlé à Dieu. Et en fait, je réfléchissais juste à ça, qu'on a besoin, dans toutes les choses qu'on traverse, d'essayer de se rappeler d'avoir cette première réaction, en fait. Et je le dis vraiment pour moi en premier, parce que c'est pas naturel, c'est pas ce qui vient en premier quand on est face à une tuile, comme on dit dans la vie courante. La première chose, c'est mince, qu'est-ce que je vais faire? Qui je peux appeler? Est-ce qu'il y a de l'argent sur le compte en banque? Est-ce qu'il va falloir que je décommande un truc? Si on pouvait juste penser, d'abord je m'assieds, je le dis au Seigneur, peut-être 5 minutes, et après je vais faire tout le reste, ça n'empêche pas, mais après. Et je pense que du coup, on n'aborderait pas les choses de la même façon. On aurait déjà le calme dans notre esprit. On se rappellerait que Dieu est en contrôle, qu'il n'y a donc pas de raison de paniquer, que ça va bien se passer. Mais voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est compter sur Dieu dès le début, au lieu d'essayer de régler nos problèmes par nous-mêmes et puis crier à Dieu quand on voit qu'on n'y arrive pas. Et en fait, on a ça plein de fois dans les Écritures, notamment beaucoup dans l'Ancien Testament, mais vous savez tous ces passages où Dieu dit à son peuple de ne pas s'appuyer sur l'Égypte, qu'il appelle un roseau cassé, c'est-à-dire on s'appuie dessus pour trouver de l'appui, puis en fait il nous perce la main et il nous aide pas en fait. Et quand on essaye de trouver des solutions dans le monde, c'est souvent ça, c'est sur le moment on a l'impression que c'est la super idée qui va nous aider, et puis parfois on rentre dans des engrenages et dans un truc de plus en plus compliqué que la situation du début, juste parce qu'on a cherché des appuis et pas au bon endroit. Il y a aussi ces versets qui sont bien connus en Jérémie 17, où il nous est rappelé qu'on doit se confier en l'Éternel et pas en l'homme. C'est Jérémie 17, versets 5 à 8. Vous savez, c'est l'arbre vert ou sec, suivant les cas. Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras, dont le cœur se retire de l'Éternel. Celui-là, il est comme un dénué dans le désert, qui ne voit pas quand le bien arrive. Même s'il y a quelque chose de bien, il s'en rend même plus compte. Qui demeure dans les lieux secs au désert, dans un pays de sel et inhabité. Et à côté de ça, bénit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il étendra ses racines vers le courant. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant et qui, lui, à l'inverse, ne s'aperçoit pas quand la chaleur vient. Et sa feuille est toujours verte. C'était la raison pour laquelle le roi d'Israël, dans la loi, dans le Deutéronome, c'est marrant parce que dans le Deutéronome, c'est la sortie de... C'est juste au moment de la sortie de... Enfin, du passage dans le désert. Et pourtant, on est encore très loin d'avoir un roi en Israël. Mais Dieu savait déjà toutes choses à l'avance. Et en fait, il le dit déjà en Deutéronome. Quand vous voudrez avoir un roi... C'est impressionnant quand on lit ça, en fait. On a l'impression, quand on lit Samuel et les rois et les chroniques, que ça a été un peu une surprise que le peuple demande un roi. C'était pas une surprise pour Dieu, il l'avait déjà prévu dans la loi en Deutéronome, en disant « Quand vous demanderez un roi, je vous préviens que le roi n'est pas une multitude de chevaux, pour que vous vous appuyiez pas sur votre force pour faire la guerre, mais sur l'Éternel. » Et en même temps, c'est ça ce qui est beau aussi, c'est Dieu dit ça, d'un côté ça peut paraître effrayant, parce que « Mais si moi j'ai pas beaucoup de chevaux, et puis que l'ennemi arrive avec tous ses chevaux, je me mets en danger en fait. » Et Dieu prend la peine de dire, en Deutéronome 20, les versets 1 à 4, « Quand tu sortiras pour faire la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Que votre cœur ne faiblisse point, ne craignez point, ne soyez point alarmés, ne soyez point épouvantés devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous, pour combattre pour vous contre vos ennemis, pour vous sauver. » Il y a un verset qui m'a plu, que je recherchais, j'essayais de retrouver à quel endroit il était question que le roi ne doit pas avoir de chevaux, et je suis tombée par hasard sur un psaume que j'avais jamais vu. Psaume 20, verset 7. qui dit ceci en parlant des gens du monde. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et on peut mettre tellement de choses à la place des chars et des chevaux dans le monde dans lequel on vit. Je sais pas, ceux-ci s'appuient sur la bourse, qu'elle soit bien. Il faut que tout aille bien à la bourse. Ceux-ci s'appuient sur la pile de masques qu'ils ont pour résister au coronavirus. D'autres s'appuient sur leur compte en banque bien rempli. D'autres s'appuient sur leur bonne position sociale, leur bon travail, leur bon... On peut multiplier, il y a tellement de choses sur lesquelles les gens s'appuient pour pas avoir peur. Et nous, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là, en fait. Nous, on peut juste invoquer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Il faut juste pas qu'on oublie de l'invoquer. Et encore, il est gracieux, même si on oublie de l'invoquer, il interviendra quand même. Mais pour notre paix d'esprit, on a tout intérêt à l'invoquer. Donc ça, c'était un peu le premier point. C'était en fait penser à parler de nos soucis à Dieu en premier. Et puis un deuxième point en ce qui concerne la confiance en Dieu, je vous dis le titre, puis après on va expliquer un peu, c'est ne pas manipuler nos situations de façon à ce que la gloire puisse revenir à Dieu à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on a tendance à vouloir faire tourner les choses à notre avantage, et en faisant ça, on empêche Dieu d'être glorifié à la fin. C'est-à-dire si on a tout contrôlé pour qu'une chose se passe d'une certaine manière, à la fin, on pourra bien dire « Gloire à Dieu, il a permis ça », mais en vrai, il n'y aura pas vraiment de gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, si on ne l'aura pas laissé agir, c'est nous qui aurons tout fait d'un bout à l'autre, qui aurons contrôlé tous les trucs. Et en fait, on empêche Dieu de se glorifier. Et il y a des exemples comme ça dans la parole. Il y a des exemples qu'on connaît bien, comme par exemple Gédéon. Vous savez, quand l'Éternel l'a envoyé à la bataille, alors déjà, il a mis longtemps à accepter d'y aller. Il avait peur. Mais bon, il a fini par accepter. Et quand Dieu l'envoie à la bataille, il compte ses troupes, qui sont déjà franchement ridicules à côté des troupes d'en face. Je sais plus quel est le chiffre, c'est en juge 7.
30 000.
30 000 ouais. Voilà. Enfin, je sais plus combien il y en avait en face, mais c'était en centaines de milliers, je crois. Donc il y avait déjà une différence colossale entre ses troupes à lui et les troupes de l'adversaire. Et Dieu lui demande par deux fois d'enlever des hommes de sa troupe et donc d'aller au combat avec rien du tout. Je crois que c'est 300 à la fin, c'est ça. Hein. Voilà, il arrive au combat avec rien du tout. Et en fait, c'est Dieu qui lui demande, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre à faire dans nos vies, sans que Dieu nous le dise précisément. C'est parfois, si on accepte de se mettre dans une position de faiblesse, on verra Dieu agir ou se manifester de façon d'autant plus frappante, parce qu'on saura que c'est lui, ça peut être rien d'autre en fait. Il n'y a tellement aucune autre possibilité que la chose se passe bien que c'est forcément lui. Et il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est celui d'Esdras. Vous savez, Esdras, quand il était à Babylone, il a la faveur du roi. Le roi lui accorde de retourner en Israël pour rebâtir. Et il lui dit, tu peux emmener tout ce que tu veux, est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, etc. Et il est dit en Esdras 8, juste avant, donc Esdras se réunit avec les quelques Israélites qui sont autour de lui là-bas et qui sont d'accord avec lui pour retourner en Israël, et ils font une espèce de réunion d'avant le départ pour prier et remettre leur voyage à l'Éternel. Et donc, chapitre 8, verset 21, « Là, près du fleuve Ahava, je publiai un jeûne pour nous humilier devant notre Dieu, pour lui demander le vrai chemin pour nous et pour nos enfants et pour tout notre avoir. » Car j'avais honte de demander au roi des forces et de la cavalerie pour nous aider en chemin contre l'ennemi, car nous avions parlé au roi en disant « La main de notre Dieu est en bien sur tous ceux qui le cherchent, et sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. » En fait, Esdras voulait pas demander... Alors, la traduction, c'est pas génial, là, j'avais honte. Je pense pas que ce soit une question de honte, c'est juste qu'il voulait pas demander au roi des troupes, parce que juste avant, il a dit au roi « Dieu est avec nous, il va nous protéger ». S'il lui demande des troupes, bah c'est Dieu qui te protège ou c'est mes troupes. Enfin, il y a un moment, il faut être cohérent aussi. Et en fait, il a ce témoignage de dire au groupe qui est avec lui, on ne va pas demander les troupes au roi pour nous protéger, parce qu'on sait que Dieu va nous protéger et on veut que le roi le voie, en fait. On veut que le roi se rende compte qu'on est un peuple qui est protégé et qu'on n'a pas besoin de protection humaine. Et en fait, il s'est mis dans une situation de faiblesse, volontairement, alors que le roi aurait dit oui, il pouvait, il avait qu'à demander. Il aurait eu l'aide du roi. Mais pour que le nom de l'Éternel soit glorifié, et pour que ça soit un témoignage pour le roi, peut-être pour que le roi un jour se convertisse, en fait. Et c'est ce qui s'est passé au verset 31. Nous partîmes du fleuve Ahava le 12e jour du premier mois pour aller à Jérusalem. Et la main de notre Dieu fut sur nous, et il nous délivra de la main de l'ennemi et de toute embûche sur le chemin. Et là, Dieu a été glorifié. Il l'aurait été aussi s'il était parti avec la troupe, c'est pas la question. Mais c'est comme une façon supplémentaire de rendre la gloire de Dieu encore plus éclatante. Dire que c'est lui et personne d'autre qui a fait les choses. À l'inverse, quand on essaye de manipuler ou d'aider Dieu, ça me fait penser à ce qu'a fait Abraham quand il a essayé d'avoir un enfant avec Agar. Abraham, il avait la promesse de Dieu, il savait que ça venait de Dieu, ce désir qu'il ait un enfant. Donc ça, c'était ok, il n'y avait pas de problème. Mais il veut aider, il veut faire à sa manière, il veut faire à sa façon. Et donc il a cette idée d'aller voir Agar, alors qu'il n'y avait pas besoin d'idée. Il suffisait de faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Alors Dieu a donné un autre enfant et voilà. Mais quand bien même, imaginons que ça ait été lui finalement le fils d'Abraham, ça enlevait quelque chose à la promesse de Dieu, parce que c'était pas Dieu qui l'avait fait de manière surnaturelle, c'était Abraham qui avait traficoté son truc et qui avait réussi à avoir un enfant par ses propres moyens. Donc, je pensais à ça, faire attention de pas manipuler nos situations. Et c'est aussi pour ça qu'il faut commencer par prier d'abord, avant de chercher à résoudre le problème. Parce que quand on cherche à résoudre le problème, parfois on va avoir tendance justement à manipuler. On va pas savoir où s'arrêter dans notre recherche de solution et on va risquer de manipuler. Alors que je pense que quand on en a parlé à Dieu d'abord, on s'est placé sous la bonne couverture et puis on a remis les choses en perspective aussi. Et du coup, on va être plus sage dans les moyens qu'on va chercher pour sortir de nos soucis. Et donc, dans la pratique, moi je pensais à deux domaines en tout cas où dans ma vie ces questions se sont posées. Alors c'est un témoignage personnel, c'est pas du tout transposable ou applicable à tout le monde, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais une des choses en particulier, c'est Ben et moi, on voulait avoir des enfants. On s'est mariés, j'étais pas très jeune déjà, donc on savait que ça serait pas forcément évident, mais bon. Et puis il se trouve que j'ai été enceinte plusieurs fois, donc ça avait l'air de marcher. Et en même temps, j'ai perdu mes bébés. Et du coup, on a vu des médecins qui ont fait des tests, qui n'ont pas trouvé d'anomalie. Et vous savez comment est le monde dans lequel on vit. On nous propose toujours plein de solutions dans ces cas-là. Le monde a plein d'idées, de trucs qu'on peut faire pour avoir un enfant à tout prix. Et voilà, on s'est posé pas mal de questions avec Ben. Alors, on était dans l'ensemble pas très à l'aise avec l'idée de forcer les choses. Et en même temps, il y avait des choses qui paraissaient simples. Il y avait du genre un traitement de stimulation hormonale, comme j'étais pas toute jeune, qui pouvait éventuellement soutenir une grossesse qui se serait faite normalement, mais l'envie de l'éviter de partir, on se disait, ah, pourquoi pas ça? Donc, j'ai commencé ce traitement, j'ai fait 2 jours, puis au bout de 2 jours, on s'est parlé. C'était un truc sur à faire sur tout le cycle, évidemment. Au bout de 2 jours, on s'est parlé, et tous les deux, on n'était pas tranquilles, en fait. On se sentait pas du tout tranquille vis-à-vis de ça. Donc, j'ai arrêté. Et puis, il y a eu aussi, suite à une des fausses couches, quelqu'un m'avait recommandé, m'avait dit qu'il y avait des séances de sophrologie qui parfois permettaient de se détendre et que ça évitait de faire une fausse couche la fois d'après. Il m'avait dit « t'as rien à perdre ». Alors, vous me connaissez un peu, vous savez comme je crois à ces trucs-là en général. Donc, je n'y croyais pas du tout, mais je me suis dit « j'ai rien à perdre ». C'est vrai, au pire, j'y vais pour rien, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, je suis allée à la première séance. Et c'était bien, c'était gentil, je racontais mes soucis, elle m'écoutait, ça me faisait du bien, voilà. Et je voyais pas du tout à quoi ça pouvait m'aider, mais admettons, en tout cas, je voyais rien de mal dedans. Mais en fait, pareil, quand j'en suis sortie, je me suis sentie reprise, pas de ce que j'avais fait quelque chose de mal, j'avais rien fait de mal, c'est pas mal d'aller à une séance comme ça. Mais je me suis dit, si jamais maintenant je tombe enceinte, qu'est-ce que je vais me dire? Je suis enceinte grâce à la sophrologie? Moi, je veux, si maintenant je tombe enceinte, pouvoir dire c'est Dieu qui l'a fait et c'est personne d'autre. Et pour ça, ben, faut pas trafiquer. Tu le mets devant Dieu et puis Dieu fait ce qu'il veut. Et après, vous allez me dire l'exemple est super mauvais parce qu'en l'occurrence, j'ai pas eu d'enfant. Mais non, parce que c'est ça aussi en fait. C'est aussi accepter que la réponse de Dieu, des fois, ça soit non et reconnaître qu'il fait ce qu'il veut et il fait toutes choses bien. Donc, ça nous met en même temps dans une grande liberté, parce qu'on arrête de se prendre la tête de jusqu'où je vais, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Dire, Seigneur, c'est toi qui sais, c'est toi qui fais, et du coup, si tu fais, ça va être glorieux. Et puis, je pensais à la même chose aussi pour le fait du désir de se marier, parce que ça aussi, j'ai connu avant, l'étape d'avant. Et ça, s'il y a un domaine où on peut être tenté de manipuler, c'est bien celui-là. Être tenté de chercher dans tous les coins le bon... celui qui sera parfait, le bon parti. Et on se fait beaucoup de mal en faisant ça. On se fait beaucoup de mal parce que... D'abord, on ne sait pas comment chercher, vu que franchement, il n'y a que Dieu qui sait qui est bien pour nous. Avec le recul, je me dis que j'avais aucune idée qui était bien pour moi. Ça, c'est la première chose. Et puis, quand bien même on arriverait par nos moyens comme ça à trouver quelqu'un et à se marier, le jour où il y a un problème dans le couple, qu'est-ce qui va revenir en premier ? C'est, mais est-ce que c'était Dieu, ce mariage ? Ou est-ce que c'est moi qui ai fait les choses ? Et puis du coup, est-ce que je lui dois vraiment la soumission ? Enfin, tous les trucs que le diable peut nous envoyer dans ces cas-là. De oui, mais c'était pas vraiment ça, ou c'était pas la volonté de Dieu. Et ça, c'est terrible. Alors que quand on touche à rien, qu'on laisse Dieu faire complètement, qu'on se met devant Dieu avec notre désir de mariage en lui disant, voilà, Seigneur, tu sais quelle est ma situation, tu sais que j'aimerais me marier, et en même temps, je veux que celui que tu as choisi pour moi, personne d'autre. Et je sais pas qui c'est. Alors, si tu peux juste faire les choses et attendre que Dieu le fasse le temps qu'il faut, parfois c'est long, mais le temps qu'il faut. Du coup, le jour où ça arrive, s'il y a des moments difficiles dans le mariage, on peut se rappeler ça, en fait. Se dire, oui, mais j'ai rien manipulé, j'ai pas triché, et donc je suis absolument convaincue que c'est l'homme que Dieu m'a amené pour ma vie. Et si c'est dur en ce moment, ben Dieu sait. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous donne une solidité pour après. Alors que si on a essayé de manipuler, ben il y a plein de doutes qui peuvent se rajouter et rendre les choses encore plus compliquées. Donc voilà, c'était deux points un peu pratiques. Et puis il y a un dernier point aussi dont je voudrais parler un tout petit peu pour finir, toujours dans la confiance en Dieu, c'est quand Dieu nous demande quelque chose, quand il nous appelle, et que ça nous paraît impossible, qu'on se demande pourquoi il nous demande à nous, qu'on se sent complètement pas qualifié pour ça, ou que ça nous fait peur. Et là, pour le coup, on a plein de gens dans la parole qui ont eu cette réaction-là. Il y a eu Moïse, évidemment, quand il a été appelé, qui a commencé par dire « je suis pas capable » et puis après va trouver quelqu'un d'autre. Il y a eu Gédéon aussi, la première fois où l'ange lui est apparu, qui a essayé d'expliquer qu'il était le plus petit de la plus petite tribu et que l'ange s'était trompé de personne. Isaïe aussi, qui disait qu'il avait des lèvres impures, qu'il n'était donc pas qualifié pour amener le message de l'Éternel. Enfin voilà, la parole en est pleine de gens qui ont été appelés et qui ne se sentaient pas capables. Et en fait, là aussi, dans ce cas-là, la première réaction, ça, c'est de se tourner vers Dieu et de lui dire, écoute, de lui dire ce que tu me demandes là, je m'en sens pas capable, ça me paraît complètement impossible. Mais sur ta parole, je vais le faire. Et puis je vais voir. Et tout à l'heure, j'ai cité Abraham pour un mauvais exemple, donc là, je lui rends la justice de le citer pour un bon. Abraham, quand l'Éternel lui a demandé de sacrifier Isaac, il a dû rien comprendre. C'était le fils de la promesse, il croyait qu'il avait compris la leçon avec Agar, il avait laissé Dieu faire à la fin, Dieu lui donne le fils promis de manière totalement miraculeuse alors qu'il est extrêmement âgé, etc. Et ce fils-là, tout d'un coup, Dieu lui demande de le sacrifier. C'est incompréhensible. C'est complètement incompréhensible. Et on ne voit pas Abraham hésiter une seconde. Il se lève de bon matin, il prend son fils et il y va. Il obéit. Et en fait, c'est parce qu'il a obéi sans comprendre qu'il a vu la provision de l'Éternel. Et donc c'est en arrivant sur la montagne qu'il a vu le bouc qui était attaché là et qu'il a pu sacrifier à la place de son fils. Et en fait, si on ne fait pas ce pas de foi quand Dieu nous demande quelque chose, d'avancer dans l'inconnu en ne sachant pas encore comment on va le faire, ben on ne verra jamais la provision de l'Éternel, en fait. Parce que tant qu'on reste sur notre quant à nous, dans les choses qu'on sait contrôler, qu'on sait faire, et sans jamais accepter les défis que Dieu place devant nous, il n'y a pas de raison que Dieu pourvoie, on pourvoit déjà. Il ne s'impose pas à Dieu. Mais il nous donne des occasions de le voir à l'œuvre, et ces occasions-là, elles peuvent pas arriver tant qu'on n'a pas fait le pas de foi, d'aller en avant, alors qu'on comprend pas comment on va y arriver ou comment, pourquoi Dieu nous l'a demandé à nous. Et donc, voilà, je pensais juste à ça. Si on veut voir Dieu à l'œuvre, il faut juste commencer par obéir quand il nous demande quelque chose, même si on comprend pas pourquoi il nous le demande et comment ça va être possible. Et ça aussi, je le dis beaucoup pour moi, parce que j'ai pas du tout ce premier réflexe. Je suis un peu championne dans l'art d'assurer. Mais ouais, de temps en temps, on a besoin de se rappeler que dans les choses de Dieu, ça marche pas comme ça. On n'est pas là pour assurer, au contraire. On est juste là pour reconnaître que c'est Dieu qui assure pour nous. Et donc avancer d'un pas tremblant dans le vide. Ça, c'est notre impression, mais en fait, Dieu voit ce qu'il a déjà en dessous pour soutenir notre pied. Et en fait, il n'est pas dans le vide, le pas. Il y a la main de Dieu en dessous. Voilà, c'était ces trois éléments sur la confiance en Dieu auxquels j'avais pensé. De lui dire en premier quand on a un souci, avant de chercher les solutions. De pas manipuler les situations pour être sûr que ça soit bien la gloire qui lui revienne à lui et à lui seul. Et puis quand il nous demande quelque chose qu'on comprend pas, obéir quand même. Et puis on le verra pour voir.